Voilà. Tout le monde va bien? Vous êtes prêts maintenant? On a vraiment été dans la douceur et dans la paix. Hein. Alors ce matin, je voudrais vous parler en fait de trois situations qui convergent vers un même temps. Vous savez tous que le présent, notre présent, c'est le résultat de notre passé et c'est dans l'attente de notre avenir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? Donc, je vais vous décrire quelques situations. Mais la première, et ce n'est pas pour plaisanter, c'est de dire, il y a quelque temps, j'ai cru que j'étais atteint de troubles obsessionnels compulsifs. Vous savez ce que ça veut dire? Des tocs. J'ai cru que j'étais toqué. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais continuellement le même type de verset ou de pensée par rapport à quelque chose qui me venait. Et je disais, bon, maintenant, d'accord, j'ai compris. Mais ça veut dire quoi? Parce que je n'avais pas de solution. J'étais juste là avec mes... On va dire comme des sujets sur lesquels il fallait que je me penche. Et c'est revenu, et c'est revenu. Et puis vous savez, quand vous faites trois fois toc... Toc, 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 ça vous fait penser à autre chose. Et tout à l'heure, tu l'as dit d'ailleurs, tu as dit... Donc là, je me suis dit, attention, ce n'est pas un trouble obsessionnel compulsif, c'est plutôt, à mon avis, quelqu'un qui frappe à ma porte. Et je me suis dit, bon, Seigneur, merci, qu'est-ce que tu veux me dire? Et ces sujets, je les avais creusés, et j'avais écrit pas mal de choses là-dessus, parce que, bon voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de mettre ses pensées par écrit. Et c'est vrai que j'ai relu alors ce passage d'Apocalypse 3:20 qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, la première pensée obsessionnelle, c'était celle du swing. Qui sait ce que c'est qu'un swing? Non, c'est pas la danse. Oui, c'est un rapport avec le golf. Ou avec ce que moi j'ai pratiqué, puisque je n'ai pas pratiqué le golf. Qui c'est qui pratique le golf là? Un petit peu? Non? Personne? Mais par contre, dans le tennis, vous avez aussi ce qu'on appelle un swing. Alors que ce soit donc au tennis ou au golf, un swing, c'est composé de trois éléments de base. L'élan arrière... Le point de contact, je vais vous l'expliquer avec des gestes, hein, et le prolongement du mouvement. Bon, vous savez quel est l'objectif, hein. Dans le golf comme dans le tennis, on a une balle, il faut l'amener quelque part. Et en principe, on doit l'amener à un endroit précis. Bon, il y en a qui jouent au tennis juste pour faire de la baballe, ou ils jouent contre un mur, mais en général, on a un adversaire qui en face attend qu'on place la balle à un endroit où il peut l'attraper. Et nous, on veut la placer à un endroit où il ne peut pas l'attraper. Les athlètes qui sont disciplinés et experts, ils apprennent à être réguliers dans la réalisation de ces trois gestes. Donc si c'est le golf, ça va être... Comment dire ça va être... Et pour employer une métaphore, je dirais que l'élan arrière, il représente notre histoire. Revenons à notre histoire, à notre passé. Le point de contact, c'est maintenant, c'est l'instant que nous vivons. Et le prolongement du mouvement est la destinée ou le futur lié à quoi? À la promesse. Maintenant, j'aurais une question. D'après vous, notre élan arrière, c'est quoi? En tant que chrétien. Les promesses de Dieu, oui. C'est l'histoire personnelle. Mais l'histoire personnelle de qui? Ben, celle de Dieu. Et si vous êtes appelés à être des athlètes dans ce domaine, du swing avec votre vie, dans votre vie, oui, notre élan arrière, c'est l'histoire personnelle de Dieu, c'est ce qu'il a accompli pour nous au travers de Christ. Nous avons hérité de son histoire comme si tout du long, elle avait été nôtre. Donc ceux qui aujourd'hui cherchent à placer correctement leur présent en vue d'un futur génial, il ne faut pas qu'ils se trompent d'élan arrière. Il ne faut pas qu'ils prennent l'élan arrière qui correspond à leur ancienne vie. Vous êtes d'accord ? Nous avons hérité de son histoire comme si tout du long elle avait été nôtre. Il a pris ce que nous méritions afin que nous puissions recevoir ce qu'il méritait. Alors le point de contact, c'est cet instant où nous entrons dans ces choses en réalisant que Dieu a un dessein unique pour nos vies. Il ne s'agit pas seulement d'avenir, il s'agit également de la magnificence du moment où nous entrons et dont la plénitude ne peut pas nous être dérobée, que ce soit par l'incrédulité ou l'introspection. Je veux dire par là, pour vous expliquer ça autrement, que si dans mon présent, je suis tout le temps en train de creuser pour savoir pourquoi je pense ça, pourquoi est-ce que vraiment demain ça va être mieux, est-ce que mon passé va avoir des conséquences sur mon futur, je suis en train de faire de l'introspection, je ne suis pas en train de penser que avec l'élan arrière que Dieu m'a donné, ma balle va être bien frappée et elle va aller là où il faut. Et enfin, le prolongement du mouvement, c'est un avenir plein d'espoir du fait que l'histoire est si solide et si sûre. Nous ne maîtrisons pas l'avenir. Ce n'est pas la peine de penser à l'avenir autrement qu'en termes d'espérance. Et l'espérance fait partie de ses qualités. Avec l'amour qui ne s'éteindront pas. Le prolongement suit la même courbe que l'élan arrière. Autrement dit, quand l'élan arrière est bon, que le point de contact est réussi, alors le prolongement est prévisible. C'est-à-dire que vous pouvez dire à tous ceux qui, à un moment donné, ont échangé leur passé contre le passé de Dieu, ils ont juste à se concentrer sur aujourd'hui, sur ce qu'ils font aujourd'hui. Et d'ailleurs, Jésus nous le disait, il y a un passage de l'Évangile où Jésus dit « Préoccupez-vous d'aujourd'hui. » Vous croyez que Jésus a dit ça juste pour dire « Bon, je vais dire un bon mot ?» Il ne nous a pas dit « Pensez à votre passé, oulala, il faut que... » Non, c'est racheté. Il n'a pas dit non plus de se préoccuper pour notre avenir. Au contraire, il a dit que notre avenir, il s'en occupait. Pensez au présent. Ce qui veut dire que notre élan arrière met en place le prolongement. Et c'est lui qui nous a précédés pour parfaitement sécuriser notre avenir. La fidélité nous donne de rester synchronisés avec son plan parfait. Et chaque fois que Dieu nous donne une promesse, il le fait parce qu'il s'est rendu dans notre avenir. Oui, vous avez bien entendu. Dieu a fait un retour vers le futur. Ça ne vous parle pas d'un film, ça ? Donc, rien qu'avec des titres de films, on peut à la limite raconter des histoires. Oui, il le fait parce qu'il s'est rendu dans notre avenir et en a rapporté une parole nécessaire pour nous y amener. Dans toute la Bible, Dieu suscite un désir dans le cœur de son peuple pour les cieux, non pas seulement comme un lieu, mais comme le domaine de son gouvernement actuel. Mais il est bon et juste de soupirer après le ciel comme étant notre maison. Vous avez le droit d'imaginer ce que ça sera. Mais vous avez le droit que d'imaginer que ça sera quelque chose de chouette. Vous avez le droit de rêver, D'accord. On va pas se priver hein, de rêver. Mais on va se priver de faire des cauchemars. Et si vous pensez que c'est les cauchemars qu'il y a devant vous, revenez alors sur le bon élan d'arrière. Vous savez, on a le droit de recommencer. On est là. On a soit une raquette, soit un... Comment ça se dit, nous ? Un club. Et il faut avoir le bon club en plus, hein, et la bonne raquette. Mais ça, vous êtes déjà équipé. Et donc, il en va de ma responsabilité de tout autant aspirer après son gouvernement, ici et maintenant. Dieu se charge de me donner accès au ciel. Mon boulot à moi, ce n'est pas d'aller au ciel. Non. Votre boulot à vous, ce n'est pas d'aller au ciel maintenant. C'est de faire que le ciel vienne sur la terre. D'accord ? Au travers de quoi ? De vos prières. Au travers de votre obéissance. C'est tout. Donc vous voyez, on a à gérer un tout petit moment, le moment du contact du club avec la balle, du moment du contact de la raquette avec la balle de tennis. C'est tout. C'est la seule chose pour laquelle on est là. Et lui se charge de notre avenir et nous a donné un nouveau passé. Voilà quel était le premier volet de ce que je voulais, un des aspects, si vous voulez, de ce que j'appellerais la gestion du temps. Dans cette perspective, vous êtes d'accord, de passé, de présent et d'avenir. Prenons maintenant une deuxième histoire, mais elle sera moins dans ce concret. Y a-t-il eu jamais un autre moment dans l'histoire humaine dans lequel plus d'un million d'esclaves se sont soudainement levés et sont simplement sortis de la nation où ils ont été opprimés? Je parle de quoi, là? De l'Exode. Il n'y a eu pas d'autre moment dans l'histoire où un peuple s'est levé et est parti comme ça. En général, il y a des longues guerres, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais certainement pas quelque chose d'aussi extraordinaire. Et donc, à part la vie, la crucifixion, la résurrection et l'ascension de Jésus, l'Exode est probablement la chose la plus étonnante qui soit déjà arrivée. Mais, du point de vue de Dieu, la plus grande réalité pour son peuple n'était pas leur délivrance, mais le but pour leur délivrance. La même chose est vraie pour le salut que le Christ nous donne. L'importance et la nature de ce salut est quelque chose que nous allons apprendre à travers tout au long de nos vies. Cela reste toujours d'actualité de méditer sur le fait que nous étions morts pour nos péchés et que nous avons été ressuscités comme une nouvelle création avec un esprit vivant dans lequel l'Esprit de Dieu habite. Mais la vérité est que la vie dans le royaume est une chose plus grande que notre entrée dans le royaume. C'est ça que je vais maintenant, ce moment, si vous voulez, et ce choix dont je vais vous parler. Donc cette vérité, elle est représentée symboliquement par l'histoire de l'Exode. Quand les Israélites sont sortis de l'esclavage en Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Vous êtes d'accord ? Je ne reviens pas sur le détail. Ils ont traversé la mer Rouge, à pied sec en plus. C'est une image du baptême d'eau. L'acte prophétique par lequel nous déclarons notre foi dans le Christ et recevons le pardon de nos péchés. Dans 1 Corinthiens 10, 2, il est dit « Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » C'est dans 1 Corinthiens 10, verset 2. Donc Dieu n'a pas simplement sorti Israël de l'esclavage, il les a également amenés, où ça ? Dans la terre promise. On ne peut pas isoler l'Exode, de son but, c'est d'amener le peuple dans la terre promise. Mais la première chose qui est arrivée, c'est la traversée de la mer Rouge et la sortie de l'esclavage. Et quand il les a introduits sur ce nouveau territoire, ils ont dû traverser un autre plan d'eau, le Jourdain, pour entrer dans la terre promise. Cela parle d'un autre baptême. Ça parle symboliquement du baptême de l'Esprit. Et Jésus a fait référence à l'Esprit Saint comme un fleuve. Par exemple, dans Jean 7, versets 38 à 39. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Le premier baptême traite de nous sortir du rouge, pour ainsi dire, payer notre dette du péché. Et le second baptême nous parle d'entrer dans une autre dimension, d'être rempli de Dieu, afin que nous puissions marcher avec lui et plus efficacement le représenter comme ses agents de puissance sur la terre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais des obsessions, mais il y a 2 ou 3 ans, j'avais vu vraiment, en esprit, j'avais vu que nous étions comme un peuple qui était actuellement en train de traverser le Jourdain, que d'un côté, il y en a qui étaient encore du côté du désert, et d'autres étaient déjà en terre sainte, enfin, dans la terre promise, en train de commencer à cultiver. Et on s'était un peu attardé sur les différences entre les deux côtés. Mais je n'avais pas de suite. Et je me disais, mais... C'est pour ça que, tout à coup, il y a des choses qui sont éclairées, à droite, à gauche, et qui ont convergé vers l'explication de pourquoi, du pourquoi. La terre promise pour le croyant, c'est habiter dans le domaine du royaume. Nous n'avons pas une terre promise qui est autre chose que le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, nous pouvons d'ores et déjà y vivre. Ce que certains n'ont pas encore compris. Nous avons été sauvés pour vivre dans ce royaume. Et non pas pour attendre. Des fois, j'utilise l'image de la fusée. On est sauvé, on fonce prendre le billet pour partir au ciel et on attend que la fusée parte. Non. On est sauvé pour que le royaume de Dieu puisse nous voir à l'œuvre, comme dans Terre Promise, quand ils ont commencé à faire autre chose que dans le désert, où ils ont commencé à cultiver et à prier pour que la récolte soit bonne. Mais ils ont fait quelque chose. Alors, dans la réalité, je veux dire dans l'histoire de l'Exode, 2 tribus et demie ont décidé de vivre sur un côté de la rivière, tandis que 9 tribus et demie traversèrent vers la terre promise. Mais, souvenez-vous, Dieu a exigé de travailler ensemble pour s'assurer que les gens des 2 côtés de la rivière entraient dans l'héritage. Ceux qui étaient restés avant le Jourdain ont dû accompagner les autres pour qu'ensemble, ils conquièrent le pays. Donc, il exigeait qu'ils travaillent ensemble pour s'assurer que les gens des 2 côtés entraient dans l'héritage. Cette rivière continue d'être aujourd'hui un point de division. Je vous rappelle, pour ceux qui ont visité Israël, que ça reste quand même un lieu qui n'a pas le même sens, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Mais il y a encore une foule de gens merveilleux, déjà à l'époque, mais aujourd'hui encore, qui ont choisi de vivre en deçà de la rivière des intentions de Dieu. Et je dirais que c'est comme une rivière des intentions de Dieu. Ça a été un moment crucial, la traversée du Jourdain. Et je pense que ça n'a pas été un moment aussi marquant et aussi marqué. Vous vous rappelez que les prêtres se sont mis avec l'arche au milieu et que le cours du fleuve a été arrêté. Donc ça veut dire que je n'ai pas apporté ici des brassières pour qu'on traverse le Jourdain en se mouillant. Il n'y a même pas besoin de se mouiller. Donc je disais que certains sont restés en deçà de la rivière des intentions de Dieu. Ils ne sont pas inférieurs. Ce ne sont pas des gens impuissants. Mais ils se sont installés pour moins, parce qu'il y a plus de l'autre côté du fleuve. Du côté, avant le fleuve, on va dire, du côté est, il y avait avant la manne, mais il est dit que la manne n'était pas spécialement quelque chose de bon, ça nourrissait. Ce que l'histoire de l'Exode nous montre, c'est qu'il est possible pour des personnes de sortir de l'esclavage, mais qu'elles arrêtent avant d'entrer dans la terre promise. En fait, toute la génération qui est sortie d'Égypte, on le sait dans l'histoire qui nous est racontée dans la parole, toute la génération qui est sortie d'Égypte, à part trois personnes, a manqué la destinée que Dieu avait pour elle. Ils sont morts dans la petite péninsule entre l'Égypte et la terre promise. Et la simple raison à ces destins avortés était un manque de repentance. En fait, c'est une incapacité de permettre à Dieu de recycler leurs pensées de la mentalité servile de l'Égypte à la mentalité de ceux qui s'adaptent à marcher en alliance avec lui. Donc il y a deux types de repentance. Il y a la repentance qui permet que nos péchés soient pardonnés. C'est de traverser le bras de la mer Rouge. Mais il y a une sorte de deuxième repentance qui est de s'adapter pour marcher en alliance avec Dieu, pour en fait lui faire complètement confiance dans ce que nous faisons. Et je dirais que, de la même manière, beaucoup de chrétiens aujourd'hui se repentent assez pour obtenir le pardon, mais pas assez pour voir le royaume. Et voir le royaume, c'est recevoir finalement, c'est pas recevoir le Saint-Esprit. Et c'est là que je vais vous ouvrir le troisième volet par rapport à ce passage, puisqu'on parlait avant de temps, maintenant on va parler de passage dans votre vie. Et je vous dirai, que veut Dieu? Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Qu'est-ce que nous faisons, par exemple, pour ceux qui travaillent dans le sozo, qu'est-ce qu'on fait pour les gens? On veut qu'ils soient guéris. Vous êtes d'accord, ceux qui font du sozo? On veut qu'ils soient guéris. Et pour cela, le Saint-Esprit, on organise un rendez-vous avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit fait un travail merveilleux. Mais il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels on voit que Dieu veut quoi? Notre bonheur. C'est dit dans Jérémie 32, il dit à un moment donné au verset 41, « Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les enracinerai vraiment dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. » Dieu ne s'est jamais repenti d'avoir dit ça et d'avoir fait ça. Donc je dirais, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit après avoir obtempéré et traversé le Jourdain dans nos vies. Le plus grand cadeau que Dieu nous a fait pour que nous arrivions à vivre en fils et filles de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5:5. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est une réalité. Comme au moment de rentrer dans la terre promise, il n'y avait pas d'examen. Il n'y a pas eu de tri. On choisissait ou non de traverser. Tous ceux qui étaient encore vivants ont traversé. Même s'il a fallu dire à ceux qui étaient un peu égoïstes, vous devrez quand même traverser puis vous reviendrez dans votre région après. Donc c'est une réalité dont nous ne devons pas douter. Ai-je le Saint-Esprit? C'est une question inutile pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. Oui, bien sûr, vous l'avez. La vraie question, ça serait plutôt, le Saint-Esprit m'a-t-il, moi? Ou est-ce que je lui donne la place qui lui est due? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je le laisse me conduire? Est-ce que j'aspire à ce dont il veut m'équiper? Son fruit, ses dons. Je n'ai pas la peine de vous relire Galates 5, 22 sur les dons de l'esprit, ni 1 Corinthiens 12 qui parle aussi de l'esprit et de sa manifestation dans nos vies. Mais par contre, on peut très bien faire, et c'est là que j'en viens au rapprochement, comme si c'était une chose qui est passée, qui n'arrivera plus, ou qui ne fonctionne pas avec moi. Or, le Saint-Esprit a été donné. Et si le Saint-Esprit n'habite pas en nous, nous ne pouvons pas vivre cet état d'enfant de Dieu. Car c'est l'Esprit qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons ni reconnaître, ni accomplir les œuvres préparées d'avance. Notre destinée. Sans la présence de Jésus en nous, au travers du Saint-Esprit, nous n'aurions pas d'aide, pas de connaissance de Dieu et nous manquerions de force, d'amour et de discipline. Faire confiance à Dieu, croire que maintenant les choses, on est dans le royaume et que ce royaume, on peut le voir à l'œuvre, ça nécessite de voir ça au travers des yeux du Saint-Esprit. De lui faire confiance, de se consacrer à lui et de devenir totalement dépendant de lui. C'est donner au Saint-Esprit sa place en nous et c'est lui faire confiance pour qu'il soit notre guide intérieur. Lorsque nous entrons dans cette démarche, les portes d'une ville nouvelle s'ouvrent à nous. D'une vie nouvelle, de fils, de fille. Nous allons apprendre à nous laisser diriger par lui, parce qu'il faut apprendre à se laisser diriger par lui. Et c'est qu'ainsi que nous pouvons vivre cette filiation dans notre vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, ce qui m'a interpellé, moi, depuis des mois et des mois, c'est cette image du peuple qui... je pensais que le peuple, il voulait pas y aller parce qu'ils avaient... Ils se trouvaient bien, finalement, dans le désert. Mais je crois pas que c'est vraiment ça, finalement. Ce que le Seigneur me montre, c'est que c'est plutôt que... C'est une sorte de révolte finalement, que l'alliance, la proximité avec Dieu qui est demandée, eh ben, elle demande un choix qui est trop difficile. Mais je crois que ce n'est pas un choix si difficile que ça, si on prend conscience qu'on ne va pas mourir dans le désert, on ne veut pas rester dans un endroit où il n'y a qu'à survivre, qu'à attendre. Mais on doit rentrer dans ce que le Seigneur a préparé d'avance pour nous et rentrer dans notre destinée. Et donc, on a besoin de se repentir maintenant, plus que pour se faire pardonner les péchés, parce que Dieu est juste, et si on se repent, il nous les pardonne. Mais vous ne voulez pas rester dans le désert, vous voulez aller en terre promise, vous voulez voir le royaume. Et pour cela, il faut aller plus loin. Je veux dire, tout simplement dans l'acceptation que Dieu dirige notre vie avec le Saint-Esprit comme guide. Et peut-être qu'on pourrait prier pour ça, pour que tous ceux qui se posaient cette question de savoir où ils en sont, qu'ils puissent dans leur cœur demander au Seigneur d'accepter, c'est une bonne image, de traverser maintenant le Jourdain et de lui demander de voir le royaume. Pas de loin, mais de près. Prions. Seigneur, merci parce que tu frappes à notre porte. Tu ne nous donnes pas des troubles obsessionnels compulsifs, mais tu nous donnes vraiment... Tu frappes à notre porte, Seigneur. Et ce matin, tu as frappé à la porte de plusieurs. Et je te demande vraiment, Seigneur, de nous faire prendre conscience du paysage qu'il y a devant nous, de l'autre côté de ce fleuve que nous devons passer. Mais qu'au-delà, tu fonctionneras autrement. Nous aurons la possibilité de voir ton royaume. Et nous apprendrons à travailler avec toi comme guide. C'est une décision, Seigneur. Tu t'es chargé de notre passé, Seigneur. Et c'est avec cet élan-là que nous pouvons vivre notre présent et envisager notre avenir. Et toi, tu t'en occupes. Tu es revenu de notre futur pour nous dire, voilà, ces choses-là que j'ai préparées pour vous, vous pouvez les réaliser. Et en vous, prenez peut-être maintenant cette décision de traverser le Jourdain avec la signification que ça a dans votre vie. Parce que vous voulez voir le royaume de Dieu à l'œuvre et surtout pouvoir dire aux autres, il s'est approché de vous. C'est ce que Jésus voulait et c'est ce qu'il veut encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et tous ceux qui ont envie qu'on prie pour eux maintenant à propos de ça, ils peuvent s'approcher pendant que les autres peuvent prier pour cela aussi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les enracinerai vraiment dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu as donné. Oui. Amen Seigneur Jésus. Et pendant qu'on va prier pour ceux qui sont approchés, vous pouvez dans votre prier pour ça aussi.